Nous lirons ce matin Hébreux chapitre 12, et nous lirons tout le chapitre. Bien sûr, il est long, mais ça nous donnera une idée de comprendre mieux ce que je vais vous dire, puisque je dois le répéter. Nous tous, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prenez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous sont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes, mais non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon. Tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais celle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous, et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle, où ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approché de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse, une fois encore, « Je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel ». Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Je n'ai pas envie aujourd'hui de vous apporter du repli avec ce message. Comme promis, je vais reprêcher le message qui fut perturbé par l'alarme qui s'est déclenchée. Certains ont compris, d'autres à moitié, d'autres pas du tout. Donc on va essayer de ne pas se répéter, quoique, et comme dirait l'apôtre Paul, si je vous dis les mêmes choses, des fois c'est nécessaire. Hein. Donc voilà, si aucune ne veut plus écouter, ils peuvent sortir à l'arrivée. C'est vrai que personnellement, je n'aime pas aller chercher de vieux messages quand je prêche. J'aime le frais, même dans la nourriture, j'aime bien ce qui est frais. Voilà, ma femme aussi. Mais les circonstances m'obligent parfois à me répéter. Et quoique on m'a fait, une personne qui avait malgré tout compris et a pu capter le message, m'a fait une remarque. Et il m'a fait penser à quelque chose que je n'avais pas pensé en préparant la méditation. Quelque chose que je n'avais pas pensé, je me dis, tiens, je vais un peu modifier ce que j'ai apporté, donc il y aura un petit plus. Afin de bien comprendre ce message, il faut d'abord se rapporter au chapitre 11 des Hébreux, au sujet des héros de la foi, ainsi appelés. Dans ce chapitre, il est mentionné tous les héros de la foi de l'Ancien Testament. Il nous y est relaté brièvement des hauts faits de ces personnages historiques, des hommes et des femmes qui ont eu une confiance totale en Dieu et qui ont accompli des exploits. C'est pour cela qu'on appelle ceux-là les héros de la foi, qui sont morts, qui sont dans la gloire. Quelque part, c'est une espèce de métaphore parce que ceux qui sont dans la gloire ne peuvent pas mouvoir. Mais là, l'apôtre qui écrit ça dirait, vous êtes entouré par une nuée de témoins. Pensez à ceux-là. Imaginez qu'ils vous regardent en cet instant. Imaginez seulement, parce qu'ils ne nous regardent pas. Tiens ça à le dire. Ils ont combattu le bon combat, ils ont affronté des difficultés, ils ont affronté des géants spirituels, surmonté des épreuves, surmonté des persécutions, affronté la mort, ayant vécu des moments glorieux, remporté des victoires au nom de l'Éternel. Voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle les héros de la foi. Mais si nous lisons leur vie, si nous voulons lire entre les lignes concernant ces personnes, ils ont eu aussi leur moment de doute, de découragement, de chute, de dépression, de péché. Pouvant ainsi, comme l'affirme l'apôtre Jacques dans son épître, en parlant au sujet d'Élie, mais qui se vérifie auprès de chacun, mais nous-mêmes aussi, tous ces héros de la foi sont de la même nature que nous. Ils sont humains, avec leurs failles. Oui, ces héros de la foi, ils ont eu leur temps fort, leur temps de gloire. Mais ils ont eu aussi leur temps faible, leur temps de chute, exposés au regard du peuple, portés en triomphe ou méprisés. Mais dans leur temps faible, ils étaient seuls. Comme nous pouvons être seuls aussi dans nos temps faibles, seuls sous le regard de Dieu. Et l'Éternel était bien obligé de les relever, comme il est bien obligé de nous relever aussi quand nous chutons. Voyons l'aspect négatif de certains de ces héros de la foi, non pas pour les juger ou pour les critiquer, non bien sûr, mais afin d'en tirer des leçons pour notre vie spirituelle. Comme nous n'avons pas le droit de critiquer nos frères et sœurs qui peuvent chuter, qui peuvent tomber. Et pendant quelques instants, je voulais vous apporter aussi cet ajout sur lequel j'ai réfléchi après cette conversation avec cette personne à la fin du culte. S'il y a aussi le péché qui est un obstacle, et comme le dit la parole, qui nous enveloppe, où nous cerne, comme dit la version du semeur, Il y a aussi les fardeaux qui nous accablent. Les fardeaux de la vie que nous apportons dans nos prières au Seigneur. Mais malheureusement, bien souvent, et moi le premier, quand j'ai fini de terminer ma prière, je repars avec mes fardeaux. Je ne les laisse pas. Bien souvent, nous sommes comme ça. Si nous sommes honnêtes, pour vous dire c'est vrai, combien de fois j'ai repris les fardeaux. Pourquoi faisons-nous cela? Oh, nous pensons peut-être que Dieu est trop occupé pour s'occuper de nos problèmes. Ou peut-être parce que nous pensons être assez forts pour les porter encore un peu. Tiens, je vais te donner un coup de main, Seigneur. Je vais porter avec toi les fardeaux, là. Hein. Et qu'a dit Jésus à propos des fardeaux? Qu'a dit Jésus à propos des fardeaux que nous traînons? Et les paroles que Jésus a dites, nous les prenons bien souvent pour les inconvertis. Parce que nous sommes parfaits, nous disons. Nous sommes chrétiens évangéliques. Dans la version du Semeur, Matthieu chapitre 11, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Jésus dit, venez à moi, qui ? Vous tous. Vous tous. Il ne dit pas, venez à moi, vous les Juifs. Vous, mon peuple préféré. Non. Il ne dit pas « Venez à moi, vous les païens ». Non, il dit « Vous tous ». Il nous inclut tous. Qui êtes fatigués et chargés, venez. Je ne connais pas votre état. Heureusement, parce que si je devais encore porter tous les fardeaux en plus des miens, ce serait terrible. Quoi qu'on doit se supporter les uns les autres, mais nous ne pouvons pas tout porter, nous avons porté à Dieu. Donc, si ce matin, c'est votre cas, vous êtes chargés par des fardeaux, ben, Jésus dit « Venez, venez, déposez-les ». Dieu nous inclut, nous chrétiens de la communauté de Blény, à déposer nos fardeaux, car ces fardeaux nous enveloppent facilement, nous étouffent et ralentissent notre marche spirituelle. Nous n'avons pas à les garder, nous devons les déposer afin d'être légers sur la route, car cette route est longue et difficile. Ces fardeaux, frères et sœurs, nous voilent la face de notre Dieu et nos regards sont dirigés vers nos fardeaux. Et ainsi nous chutons et nous tombons dans le péché parce que nous regardons nos fardeaux et non pas Jésus. Juste encore une parenthèse, les fardeaux que nous portons sont parfois dus à la conséquence ou conséquence du choix de notre vie, des choix que nous avons faits. Je peux dire que dans ma vie j'ai fait des mauvais choix. Et j'en ai payé les conséquences. Et je crois que nous tous, nous pouvons dire la même chose. Nous avons eu des fardeaux parce que nous les avons voulu, parce que nous n'avons pas obéi, nous n'avons pas regardé vers Dieu. Et tout cela ralentit notre marche. Faisons attention à nos associations, avec qui nous nous associons. Faisons attention à notre monde de vie. Regardons les héros de la foi qui ont failli, car vivant dans le compromis, écoutez ce que dit l'apôtre Paul, dans le chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens, verset 14, je lis dans la version français courant, « Ne vous mettez pas sous le même joug que les personnes qui ne croient pas en Dieu. Comment, en effet, ce qui est juste s'associerait-il à ce qui est mauvais? Comment la lumière s'unirait-elle à l'obscurité ?» Le joug de Jésus est léger. Frères et sœurs, ne reprenons pas goût à notre ancienne vie. Ne mélangeons pas notre vie chrétienne et notre vie d'avant. C'est un avertissement que nous donne Paul. Ne vous mettez pas sur le même joug que des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ce matin, pour le bien de notre vie spirituelle, si nous sommes chargés, déposons nos fardeaux à Jésus. Et bien sûr, le péché qui nous enveloppe facilement. Nous allons aussi voir comment le péché a conduit ces héros de la foi que, que nous vénérons quelque part, on dira quel exemple. On les a ces problèmes de péché et ces fardeaux les ont conduits à la chute. Pourtant, ils sont cités en exemple, mais ils ont chuté. À un moment de leur vie, ils ont eu besoin de la grâce de Dieu pour poursuivre la route. Noé, un homme juste, face au monde d'alors, monde méchant, violent, rebelle à Dieu, tout à fait comme notre époque, rien n'a changé sous le soleil. Il a construit une arche selon l'ordre de Dieu. Toutes les mesures, tous les plans étaient donnés par Dieu. Cette construction a été faite sous la moquerie de ses contemporains. Il y est bien, faire un bateau au milieu d'un champ où il n'y avait pas d'eau et dire qu'il allait sauver la planète. C'était un écolo avant l'heure, hein, mais voilà. Le réchauffement climatique. Et voilà que Noé a obéi à Dieu et il a sauvé la race humaine et animale. Mais voyons ce qui s'est passé après le déluge. Chapitre 9, verset 20 de Genèse. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japhet prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem, que Dieu étende le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Nous remarquons dans ce passage un incident qui n'est pas anodin. Et cela marquera la descendance de Noé. Nous n'avons pas le temps ici d'analyser le reste. Nous avons un Noé ayant cultivé de la vigne. Rien de mal à être vigneron. Hein. Mais usant et abusant du bon vin, il s'est saoulé. Et a fait de l'exhibitionnisme, ce qui a choqué ses fils. Qui aura une conséquence grave pour son fils Cham, n'ayant pas couvert la nudité de son père. Moralité, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et pour la morale. Quelque part, cet homme qui a suivi le roi de Dieu, il s'est laissé un peu aller, et voilà ce qui s'est passé. Pourtant, Noé est aussi cité parmi les héros de la foi. Un autre personnage, Abraham, surnommé à juste titre le père des croyants. Il ne fut pas toujours dans le plan de Dieu. Dès le départ, en répondant à l'appel de Dieu, il s'encombre de son neveu Lot. Dieu ne lui avait pas demandé d'embarquer son neveu dans cette aventure. C'est Abraham qui a voulu l'embarquer avec lui. Et ça lui causera des ennuis plus tard. Ennui qu'il aurait pu s'éviter. Ensuite, nous voyons un passage où il y a un mensonge pouvant lui coûter la vie au sujet de sa femme qu'il fit passer pour sa sœur. Parce que comme nous tous, il avait marié une belle femme. Voilà, quand on a une belle femme, ça fait des jaloux. Et Abraham avait peur de perdre sa femme. Donc il dit que tu es ma sœur, comme ça je n'aurai pas d'ennui et je resterai en vie. Genèse 20. Abraham partit de là pour la région du Négev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abimélec dit encore à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Abraham répondit, je me disais, qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. La peur, le manque de confiance font perdre les pédales à Abraham et Abraham commence à mentir. Et provoquer une malédiction sur Abimélec, si vous lisez le texte, que seule la sagesse de cet homme a sauvé de cette condamnation, car il n'a pas touché Sarah. Et que dire d'Abraham, de son manque de confiance en Dieu, ne voyant pas la promesse concernant la venue d'une descendance? Il prit pour femme sa servante. C'est sa femme qui lui a conseillé de prendre Agar. Pas toujours écouter votre femme, hein, mes frères. Et avec cette femme-là, il eut un fils dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Ah, il serait resté tranquille. Voulons-nous continuer de parler de ces héros de la foi? On y va? Jacob, lui, un voleur, un trompeur, Dieu l'a choisi. On dit toujours que le bon Dieu a des drôles de logeurs, mais c'est vrai. Il ne se rétracte pas, Dieu, des promesses qu'il avait faites à son grand-père Abraham. Et Jacob est cité parmi les héros de la foi. Dieu l'a transformé après une lutte terrible entre lui et Dieu. Il a été brisé profondément. Et il fut le père d'une grande nation. Dieu a changé son nom en Israël. Dieu l'a béni. Un autre héros de la foi, Moïse. Le grand libérateur du peuple juif, nous lisons au début de son histoire qu'il n'est autre qu'un assassin. Il commence comme ça, son ministère. Ben oui, vous rendez compte? On a un pasteur ici, le premier rôle, il tue un des membres. Hein, bon, qu'est-ce que Moïse a fait? Il tue un Égyptien, il a caché son corps, un grand libérateur, avec ses failles, frères et sœurs. Et cela lui a coûté très cher, car il ne put entrer dans le pays promis. Écoutez ceci dans le psaume 106. Ils ont hérité Dieu à Mériba. Ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Nous remarquons aussi le manque de patience. On est poussé à bout face à certains événements et il lui fait commettre l'irréparable. Et dans le chapitre des héros de la foi, on cite encore Gédéon, un autre libérateur du peuple, extraordinaire. En fin de vie, il fait tomber le peuple dans l'idolâtrie à cause de cette éphod qu'il avait fabriquée, que les gens adoraient. Ne parlons pas de Samson. Hein. Samson, cet homme fort. Il est issu d'un miracle, sa maman était stérile. Et Dieu a répondu à ce couple, et elle a eu un enfant, et Dieu avait donné des directives pour cet enfant. Il ne pouvait pas couper ses cheveux, il y a toute une série de choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais il était doté d'une force extraordinaire pour libérer son peuple. Et qu'a-t-il fait? Il a désobéi, il a cherché souvent son propre intérêt. Il a chuté l'amour des femmes, l'adultère. Et voilà un homme choisi par Dieu tombant dans la disgrâce. Et David, le roi selon le cœur de Dieu, ne peut s'empêcher de tomber dans le piège du diable. Adultère, assassinat, afin de couvrir son péché, et la liste est longue, elle ne s'arrête pas. Nous pourrions parler du prophète Élie. Un des plus grands prophètes, puissant, accomplissant des grands prodiges, nous le voyons en fuite à cause d'une femme, la reine Jézabel, voulant sa mort. Pour ce qu'il avait fait, il avait égorgé 450 prophètes de Baal, mais il avait fait revenir le peuple d'Israël à Dieu. Il a invoqué Dieu, et la pluie est venue. Toutes ces personnes nous sont citées en exemple, frères et sœurs, prouvant que le plus grand des hommes de Dieu a ses failles, ses victoires et ses défaites. Mais néanmoins, restant fragiles, frères et sœurs, car ils ne sont que des hommes pécheurs, et pourtant ils sont cités en exemple. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en évidence les héros de la foi, il y a une raison nous concernant. Il y a un avertissement pour notre vie chrétienne. Comme eux, nous ne sommes pas exempts de failles. Et pourquoi il nous dit ceci? Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Rejetons tout fardeau qui nous empêche d'avancer, et le péché qui nous rattrape, nous faisons succomber. La version en français courant nous dit ceci: débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Le péché. Voilà ce qui entrave notre marche. Et c'est ce qui a provoqué la chute des héros de la foi. Le péché vient sur nous sans que nous nous en rendions compte, frères et sœurs. Nous devons être sur nos gardes. Le péché nous enveloppe facilement. C'est pour cela que ces héros de la foi ont chuté. Ils n'ont pas pris garde, peut-être trop sûrs d'eux, trop sûrs de leur force. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde car nous sommes engagés dans une course très dure. Nous avons besoin d'endurance. Il nous faut nous mettre toujours au diapason de la parole de Dieu et prier afin de persévérer et de ne pas tomber dans le péché. Les héros de la foi sont pour nous un exemple dans leur endurance, il est vrai, et dans tout ce qu'ils ont supporté, mais leur chute doivent nous faire prendre garde. Ne pensons pas être invincibles, tout comme eux l'ont cru aussi. Nous sommes fragiles, reconnaissons-le, le péché veut constamment nous envelopper si nous ne prenons pas garde. Et cela nous empêchera de courir vers le but. N'oublions pas que nous sommes entourés de puissances mauvaises nous voulant du mal. Nous sommes entourés de puissances mauvaises. Ce n'est pas spécialement nos voisins, hein. Ce sont les puissances infernales qui sont autour de nous dans ce monde, qui nous combattent, qui combattent l'Église. Courir en ayant les regards fixés sur notre super-héros, non, ce n'est pas Superman, c'est Jésus, notre super-héros, qui n'a jamais failli. Les regards fixés sur celui qui a dit en Jean 8, « Qui me convaincra de péché ? Qui me convaincra de péché ? Qui peut prononcer cette parole aujourd'hui dans cette salle ? Personne. » Parce que nous sommes tous pécheurs. Des pécheurs pardonnés, mais des pécheurs quand même, qui de temps en temps chutons. Jésus a dit, qui me convaincra de péché ? Personne ne pouvait l'accuser d'avoir péché. Et c'est pour ça que quand il a été condamné, on a fait de fausses déclarations, de faux témoignages, parce qu'on n'avait rien contre lui. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père, disait-il. Jésus, qui face à la tentation, n'a pas succombé. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, frères et sœurs, notre divin modèle. Lui qui a accepté la mort à la croix. Il a quitté la gloire du Père pour venir à notre rencontre. Il a résisté à l'opposition que les hommes lui livraient. Quand nous sommes découragés, quand nous sommes prêts à tomber, regardons à lui. Comme ce passage nous dit, nous n'avons pas résisté jusqu'à la mort. Et réalisons que de nombreux chrétiens dans le monde sont confrontés à cette situation. Combien de frères et sœurs dans ce monde sont confrontés à la mort tous les jours ? Jusqu'à présent, nous avons cette chance d'être dans un pays libre, quoique on ronge tout doucement nos libertés, si vous voyez ce que je veux dire. Faisons attention, car l'ennemi est sur nous. Et un jour, on se rendra compte, ah, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus se réunir comme avant. On doit donner peut-être le thème de nos messages à nos autorités. Ça vous fait peut-être sourire, mais qui sait ? Ce qui nous arrivera demain. Rendons hommage à ces frères et sœurs qui sont livrés à la persécution et prions pour eux. Frères et sœurs, nous devons dans notre marche être vigilants au sujet du péché, car comme il l'est dit, il nous enveloppe. Il nous enveloppe facilement, insidieusement. Le péché nous enveloppe facilement, c'est ce que la Bible dit. On ne se rend pas compte et puis nous sommes enveloppés par le péché. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je fais ? Et nous sommes tombés dans le péché, parfois sans le savoir, sans le vouloir, sans parfois que nous le remarquions. Oui, alors, nous chutons, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu, et nous devons alors accepter la correction de Dieu. La correction que Dieu nous inflige parce que nous sommes ses enfants, et comme un père, il nous corrige. Mais certains nous disent, « Mes frères, nous sommes dans la grâce. Nous vivons sous la grâce. » Tout est grâce. On va être pardonné tout de suite. On peut faire ce qu'on veut. De toute façon, on est gracié. Oh là. C'est une théorie qui circule dans nos milieux aussi. Vivre sous la grâce ne signifie pas vivre à notre guise. Et si nous avons vécu à notre guise, ce que nous avons tous fait, si nous sommes assez honnêtes pour l'avouer, nous devons reconnaître que nous avons besoin du pardon de Dieu. Vivre à notre guise, prétextant que Dieu est bon et qu'il pardonne tout. Non, ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on veut nous enseigner pour nous faciliter la vie du carcan religieux. C'est ce qu'on veut de nous, les chrétiens. Non, ce n'est pas cela. Si nous prenons les versets 5 et 6, « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Ce texte nous dit que nous ne devons pas mépriser la correction. Si nous sommes corrigés, c'est que Dieu nous aime et il veut nous corriger. Il y a des conséquences à nos actes que nous commettons, et Dieu doit nous corriger. Malheureusement, bon nombre de chrétiens, sous couvert de la grâce, comme je l'ai dit, vivent à leur guise. Dieu est bon, nous n'avons rien à craindre, disent-ils. Moi, je dis non à cela. Il y a la sanctification que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Sans cette sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Nous l'oublions pas, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas Daniel. Dieu nous aide, nous corrige, car il est notre Père. Nos pères nous ont corrigés. Oh, moi, j'ai été corrigé par mon Père. Et je sens encore de temps en temps des coups de ceinture sur mes fesses. Parce qu'à ce moment-là, on disait, mais maintenant, on ne peut plus frapper nos enfants. Oh, il y a de loi. Que si on donne de la fessée à nos enfants, nous sommes condamnés. Alors nous fabriquons des petits voyous. Et Dieu ne veut pas des chrétiens voyous. Donc, nous devons accepter la correction de Dieu, parce qu'il nous aime. Supportons en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, la correction qu'il nous inflige. Dieu a agi de même envers les héros de la foi. Il a eu pitié de leur faiblesse, il les a relevés, bien sûr à condition qu'ils aient reconnu leur péché. Voyez le psaume 51, et nous voyons combien David est repentant face à la faute qu'il avait commise. Et il attend de même de nous que nous revenions à lui. Il nous accorde son pardon quand nous sommes repentants. Fortifions-nous dans la grâce. Reconnaissons que nous sommes des héros remplis de faiblesse. Parce que nous sommes des héros pour lui. Recherchons la sainteté. Voulons-nous vivre en héros de la foi? Alors ne refusons pas d'écouter sa voix. Hébreux 12, 25 nous dit « Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. » Et ce n'est pas moi. Il faut refuser d'écouter, mais c'est la parole de Dieu. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Dieu nous demande de suivre l'exemple de nos prédécesseurs dans la foi. C'est pour cela que nous sommes entourés de cette nuée des témoins, où notre frère André-Marie est allé les rejoindre. Et on peut dire, les derniers mots qu'il m'a écrit cette semaine, on voit bien que c'était un homme qui avait la foi, qui attendait cette rencontre avec son Sauveur. Ne rejetons pas l'enseignement du Seigneur. Que le péché s'éloigne de nous pour une vie de sanctification. Nous sommes entourés par une nuée de témoins. Leur exemple doit nous servir de leçon. Voulons-nous être rejetés par Dieu? Non. Après avoir couru dans cette course, voulons-nous courir pour rater le but? Vous avez vu les Jeux Olympiques? Ceux qui arrivaient quatrième, on dit la médaille en chocolat. Moi, je ne veux pas de médaille en chocolat. Hein. Et ils étaient au pied du podium. Quelle déception d'avoir travaillé pendant 4 ans et de se retrouver au pied du podium. Alors, suivons l'exemple de ces athlètes, nous ne voulons pas être au pied du podium, nous voulons être sur le podium, avoir notre récompense. Alors, frères et sœurs, marchons, courons vers le but, ayant les yeux fixés sur notre divin modèle Jésus, libéré des fardeaux et du péché qui veut nous envelopper si facilement. Amen. Seigneur notre Dieu, combien tu es bon, combien tu nous aimes. C'est vrai, nous voyons tous ces héros de la foi, nous ont précédés dans la gloire et qui ont eu leur temps fort et aussi leur temps faible, combien tu as eu pitié d'eux, combien tu as été bon. Seigneur, aide-nous à parcourir ce chemin qui n'est pas toujours facile, mais nous voulons regarder vers toi, afin que tu nous aides à marcher dans ce chemin que tu nous as tracé. Seigneur, bénis cette communauté, qu'elle soit bénie par toi. Amen. Amen.